Anaïs Lelièvre et Blaise Merlin, bonjour.
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 Une exposition immersive à découvrir actuellement à l'Arsolite, à Saint-Jean-en-Royans. Et puis, c'est aussi une collaboration qui s'effectue dans ce cadre immersif, je disais, effectivement, puisque déjà à partir d'une première proposition, Anaïs, cette exposition semble évoluer au fil des paysages et qui s'intègre, qui s'immerge au mieux dans l'environnement local. C'est un petit peu le principe.
Oui, absolument. J'aime créer des espaces qui sont vivants et qui évoluent de la même manière que nos paysages aussi alentour évoluent. Donc c'est une installation qui a émergé d'abord en écho avec l'expérience d'une forêt dans le domaine de Rantilly, où les taches de lumière et d'ombre générer comme ça une sensation de vibration optique et de perdition de repères. Donc j'ai perdu le nord littéralement dans la forêt, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'expérience rétinienne. Donc il s'agit là du dessin du fond de l'œil, des cônes et bâtonnets rétiniens qui est remis en jeu. Et avec une nouvelle extension, puisque l'installation monte jusqu'au plafond, en écho avec l'expérience des grottes de Chorange et de Thaïs, que Laurent Garnier nous a spécialement ouvert et qui viennent comme ça nous amener aussi cette sensibilité à la manière dont l'eau travaille les paysages de manière spécifique. Et ce qui fait que les grottes aussi continuent de travailler en nous et sont vecteurs aussi de création, enfin d'une sorte d'attention à l'endroit des transformations d'état et comment l'œuvre pourra encore par la suite évoluer dans d'autres paysages encore inconnus. Donc cette œuvre est en quelque sorte la synthèse, une sorte de concrétion, de stratification de plusieurs expériences d'espèce.
Avec toujours le noir et le blanc en trame continue ?
Oui, alors le noir et blanc, c'est une forme d'écriture qui me vient notamment de ma première résidence en Islande. Ces paysages noir et blanc, noir de lave et blanc de neige, et qui traduisent comme ça des processus géologiques en surface. Et c'est aussi un noir et blanc d'écriture, c'est-à-dire qui met à distance la matière et qui ouvre le champ de l'imaginaire. Si l'installation était rouge, bleu, verte, on projetterait aussitôt une typologie de paysage. Or là, comme je le dis, c'est plusieurs paysages à la fois. Et du coup, les évocations deviennent incertaines et c'est ce qui agite aussi notre propre imaginaire et le champ d'évocation qui l'accompagne.
Et immerger donc le public avant tout cela, c'est vous immerger vous dans le paysage environnant et puis aussi toucher toute sa sensibilité. Et le monde souterrain vous a, semble-t-il, particulièrement conquis.
Oui, l'immersion du corps dans l'œuvre, c'est aller au-delà de la dimension visuelle de l'image, c'est-à-dire c'est toucher au corps, et au corps dans la marche. Et quand on marche dans l'installation, comme quand on marche dans un paysage complexe, comme ces formes spéléothèmes qu'on découvrait dans les grottes, c'est aussi voir qu'il y a une sorte de vacillement entre les plans, ce qui travaille de la micro-perception, de la proprio-perception, de tous ces champs inconscients, de la manière dont on voit les choses, parce que ça transite aussi par le corps en mouvement. Et la grotte, c'est aussi vecteur de fantasmes, de la part cachée des choses, de ce qui travaille en souterrain, de part inconsciente, de ce qu'on ne connaît pas, surtout de l'inconnu. Et d'un inconnu qui continue de travailler quand on se dit que chaque goutte d'eau vient faire évoluer le paysage. Et dans mon travail, c'est chaque ligne, chaque petit point qui est ajouté au dessin. Donc le dessin source qui se découvre dans la première salle de l'installation et qui a généré toute cette grande installation. Et où c'est petit trait par petit trait aussi. Et c'est vrai que c'est un travail que moi je développe beaucoup. Petit par le petit, mais qui construit le grand de cette manière-là.
Alors également une adaptation au lieu et puis également une certaine morphologie, ce côté très plastique, hein, des concrétions et beaucoup de profondeur. Vous jouez, c'est l'aspect rétinien de cette profondeur dans l'exposition.
Absolument. Le dessin source que l'on découvre dans la salle numéro 1 est ensuite numérisé et agrandir, rétrécir, ce qui va créer comme ça des variations d'échelle, des sensations de profondeur et au contraire d'approche en fait de l'image et qui va complètement modifier la perception de l'espace. C'est-à-dire qu'on oublie l'architecture qui était là avant Et j'aime justement aller perturber nos repères un peu plus urbains, nos repères orthonormés de vertical, d'horizontal, d'espace mesuré, pour entrer dans un espace où le sens de la dimension, du chiffre, vient être complètement perturbé à chaque nouveau pas. Donc quand on avance dans l'installation, à chaque nouveau pas, on découvre une nouvelle partie et qui joue de ce rapport du petit et du grand. Et ce rapport-là me vient aussi de l'attention aux roches dans leur rapport au paysage. Prélever une petite roche et lui porter toute son attention, c'est aussi comprendre dans cette petite échelle des grands mouvements tectoniques, de stratification, de soulèvements qui se sont produits à grande échelle dans le paysage. Donc, moi, j'aime complètement être bouleversée, perdue, mise en vacillement, mais de manière vraiment existentielle dans la marche même, dans ces grands paysages. Et la seule chose que je peux faire, c'est de ressaisir par le tout petit en récoltant des roches localement. Et ensuite aussi d'aller chercher des spécialistes, des géologues qui viennent m'ouvrir sur des lectures des paysages et vraiment rentrer dans une appréhension d'échelle très grande au niveau de l'espace et du temps. Donc là, on a eu la grande chance d'être mis en relation avec Pierre Bintz, Laurent Garnier et Régis Picavet, qui nous ont ouvert aussi des grottes plus intellectuelles, plus averties de ces paysages qu'on éprouve d'abord par la matière et d'abord par le corps. Et donc la salle numéro 3, et là je dis peut-être presque trop de choses,
pour la vérifier par soi-même,
vient apporter de manière comme des ponctuations, point par point, fragment par fragment, mais en affirmant justement le fragment, c'est-à-dire qu'on ne montre pas tout, des documents qui ont alimenté justement cette remise en situation qui monte jusqu'au plafond et qui vient faire écho particulièrement aux grottes de Thaïs et de Chorange qu'on a eu la chance de découvrir de manière vraiment particulière en étant seul, avec vraiment un long temps d'écoute, de prise de vue, de découverte aussi quasi solitaire. Et ces documents, au lieu d'être simplement alignés ou comme dans un livre, on rentre par le corps dans ce livre de documentation comme un espace mental, de photographies, de fragments de textes qui viennent justement des échanges avec ces spécialistes, mais aussi de mes notes d'écriture en résonance et qui sont beaucoup plus poétiques, et puis d'un rêve que Blaise a fait suite à cette découverte du Vercors et qui a aussi alimenté nos échanges et ce qui se joue au niveau du son.
Côté très plastique de Anaïs, et puis justement aussi ce côté bien très fermé de la grotte et de ressentir les choses, c'est un peu d'ailleurs votre spécificité, Blaise.
Oui, c'est un rapport synesthésique au monde, au visible et à l'invisible, c'est-à-dire de d'entendre des choses et de voir plein de couleurs, de formes à partir de ce qu'on entend, et inversement de pouvoir imaginer plein de sons à partir d'un environnement spécifique, et pour ça, les grottes du Vercors, ça a été pour moi une source d'inspiration exceptionnelle. C'est une expérience du vide, de la profondeur, de l'infini, du micro, du macro. On parlait des micro-détails dans l'œuvre d'Anaïs, et de la sensation d'immersion dans une globalité, dans un paysage qui nous englobe, qui nous immerge et où on s'abandonne. Et moi, j'ai toujours vécu le son comme vraiment une matrice de création d'univers intérieur, d'univers qui raconte l'inconscient du monde, l'inconscient des paysages. Et en plus, ici, c'est particulièrement vrai parce que le paysage est façonné vraiment par ce qu'on voit dans les grottes, par des rivières souterraines, par des flux, par de l'érosion très très lente, des gouttes d'eau qui font plic-ploc de manière très musicale, parfois d'ailleurs dans l'eau, comme à Thaïs. Et j'imagine des orques de cristal en voyant la grotte de Chorange. Enfin, pour moi, c'est des paysages totalement qui ont quelque chose de féerique et en même temps de matriciel, quoi. C'est comme si on plongeait dans l'inconscient de ce qu'on voit à l'extérieur de la grotte, les montagnes, les mers disparues, etc. Et on entre dans les entrailles, dans la machinerie presque du paysage. Et pour moi, le son, c'est ça aussi, c'est l'inconscient du monde, quoi. C'est tout ce qui a façonné le monde, le vent, les torrents, les rivières, les éboulis, les effondrements. Et donc, j'ai beaucoup travaillé à partir de sons pris ou pas dans les grottes, mais qui façonnent les paysages, qui façonnent notre univers, qui façonnent le vivant, hein, l'eau, etc. Et pour en faire une expérience, pour moi, presque de plénitude, c'est-à-dire que l'œuvre d'Anaïs me donne envie, moi, de rester longtemps, de me laisser, de m'abandonner et de laisser mon imaginaire aux mains de je ne sais quoi qui nous dépasse et qui est justement de l'ordre de la création, mais pas juste la création du créateur, mais celle de l'univers, celle des choses, celle de la géologie avec laquelle on a travaillé ici grâce à ces gens merveilleux qui transmettent leur passion pour les mystères de la création, de celle sur laquelle du sol sur lequel on marche, des montagnes qu'on gravit, etc. Et donc pour moi, cette bande son, c'était une exploration, une aventure d'exploration qui s'est transformée en expérience de méditation, où le bruit se transforme en son, qui se transforme en musique, qui se transforme en vision, qui se transforme en rêve, en ailleurs et en plénitude. D'ailleurs, il y a un guide de la grotte de Chorange qui est venu, qu'on s'est un peu servi comme cobaye. On était en train de faire nos premiers tests, on lui a dit tiens, viens, il était très sympa, on a sympathisé, il nous a raccompagnés en voiture, il habite à côté, on lui a dit viens essayer notre truc. C'est le premier qui a vu l'œuvre d'Anaïs tout en entendant ma bande son. Et puis il s'est allongé au milieu et il a passé quasiment une heure, il voulait plus partir et il nous disait oh là là, j'ai vu plein de choses, ça met dans un état et tout. Et ça, pour moi, j'espère que ça fera ça avec beaucoup d'autres personnes qui viendront se laisser perdre dans l'envers du Vercors en quelque sorte.
Alors comment traduire dans cet univers massif et très très fin finalement ces ambiances sonores? Comment se réapproprier avec des instruments, des matériaux, des objets sonores?
Déjà, je me suis servi de la forme de l'œuvre elle-même d'Anaïs, qui justement mélange plein de micro-détails et en même temps avec une impression comme ça de puissance globale qui se dégage. Donc la bande-son, il y a à la fois des grands flux et il y a plein de petits événements. Si on peut l'écouter, la réécouter, je pense qu'on entendra plein de choses qu'on n'a pas entendues la fois d'avant. Et pour moi, c'est comme une sorte d'écosystème où il se passe plein de choses, où il y a plein de matières, comme dans les grottes, plein de spéléothèmes, c'est les formes, vous savez, de stalagmites, de stalactites, qui prennent parfois des formes incroyables, qui sont très évocatrices, et j'ai voulu rendre ça un peu aussi au son, et que ça puisse évoquer plein de paysages imaginaires, quoi, plein de... Et moi, c'est vrai que je fais toujours des rêves un peu psychédéliques, et on parlait du rêve que j'ai fait après avoir visité les grottes, et j'ai rêvé qu'il y avait une sorte de cathédrale en bois, dans un tunnel, qui passe sous une montagne, derrière une grande plaque en verre, comme c'était une expo, et derrière la grande plaque, il y avait une grande cathédrale, et en fait, il y avait des stalagmites qui tombaient du plafond de la montagne, quoi, dedans, et ça se mélangeait complètement avec la cathédrale. Donc voilà.
Jusqu'à générer un son, ouais. Qui a été le moteur de ton travail.
Exactement, ouais. Et j'ai...
Pour dire que c'est les grottes, dans leur résonance aussi mentale, onirique, poétique, qui nous ont mis en mouvement de travail.
Ouais, tout ce vide qu'on ressent dans les grottes et qui se plaint. Ouais, moi je suis claustrophobe et en fait dans les grottes j'ai pas du tout eu cette sensation. Au contraire, j'ai l'impression d'être relié à des choses infinies qui vont très loin, partout, dans tous les sens. Enfin,
il y a un peu une notion intra-utérine, c'est ça aussi dans ce côté d'être dans une sorte de ventre peut-être, la grotte.
Complètement. Ah ouais, non mais complètement. J'ai eu cette sensation et j'ai essayé de traduire ça aussi avec le son. On entend des infrabasses, bon c'est en quadriphonie donc on entend des choses un peu de partout et pour moi il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience intra-utérine où d'ailleurs on n'est pas dans l'intellect du tout, on baigne dans quelque chose qui est une sorte de soupe primordiale comme on dirait avec les océans, mais les océans d'ailleurs qui existaient là avant les montagnes, qui les ont façonnés aussi. Et je pense que c'est une sorte d'inconscient. On dit que l'inconscient, c'est aussi ce qui nous précède, ce qui précède la naissance. C'est ce qui précède le monde qu'on voit aussi, qu'on découvre dans les grottes. Donc oui, dans tout ça se recoupe un peu. Et j'espère donner l'envie aux gens de baigner justement dans quelque chose qui est un peu comme des bras qui nous prennent et qui nous font un gros câlin aussi cérébral, hein, dans des qui vibrent de l'intérieur. Et je pense que le mélange entre les créations très vibratoires, vibratiles de Danaïs et ses vibrations sonores, je pense que voilà, ça donne finalement une sensation de, j'ose pas dire d'extase, mais quelque chose qui pourrait aller vers ça, voilà, sensoriellement parlant.
Cette expérience d'enveloppement, mais je cherche aussi à activer quelque chose que moi j'ai vécu dans ces paysages volcaniques, de glaciers ou de grottes, c'est-à-dire qu'à chaque pas, on peut vaciller. Parce que le sol n'est pas aussi plat que nos paysages urbains où on lisse absolument tout, où on fait tout pour aller tout droit. Là, on est obligé de faire attention, on met le pied et on est obligé parfois de faire des détours, de ne pas marcher dans une flaque. Et ça réveille l'attention au sol, à la formation du sol et qui vient aussi, qui a été façonnée par ce qui se passe par en dessous. Et c'est ça que je cherche aussi à réveiller.
Et à révéler aussi, même dans l'exposition.
Absolument, une sorte d'acuité à l'endroit de notre existence et comment est-ce que aussi on s'adapte à l'environnement.
Une belle immersion en forme et en son. Le parcours sonore d'ailleurs, dont les enceintes semblent complètement occultées, hein, on rentre un petit peu
dans un... Ah oui, c'est bien qu'on ne les voit pas les enceintes.
Le son vient du dessin.
Le son surgit des stalactites et des stalagmites, quoi. Et des rivières souterraines.
Donc une expérience de résonance réussie entre votre travail et puis l'environnement aussi global. Rétine, donc, hein, c'est le nom de l'exposition à découvrir. Sinon, vous êtes de la région ou plus largement autour?
Alors, nous sommes très voyageurs, donc difficile à localiser. Mais nous avons une île qui est l'île de France et d'où nous partons et revenons, dont nous voguons. C'est un peu le point de repère.
Cela dit, moi, je suis un marcheur invétéré et j'adore les randonnées en montagne. Et j'en ai fait un peu partout où j'ai pu aller. Et ça m'a beaucoup influencé aussi, c'est sûr, pour recréer des paysages environnementaux.
J'ai une pratique de résidence et d'installation. De fait, je crée par rapport au lieu. Et c'est ce qui m'amène particulièrement à me mettre moi-même en vibration, vacillement, oscillation, très souvent sur la route. Là, dans la région, je suis aussi en résidence à l'Observatoire de Lyon. Où je prépare une grande œuvre en collaboration avec des chercheurs en astrophysique, en géologie, en paléontologie, qui sera inaugurée à partir d'octobre, en même temps que la Biennale de Lyon. Et dès le 4 octobre également, une exposition personnelle de céramique. Et la céramique, c'est très lié aux roches. Une céramique qui sort du four, c'est vraiment pleinement minéral. Et c'est aussi la rencontre de ces paysages qui m'amène à créer des changements d'état à l'intérieur de la Terre. Et c'est au musée de céramique de Lezoux, musée d'archéologie, donc c'est encore un autre champ de recherche, et qui fait suite à une résidence que j'ai pu mener sur place, où je faisais fondre partiellement des roches que je récoltais grâce à l'accompagnement d'un autre géologue, Charlet Mercier-Quin.
Eh bien, merci beaucoup Anaïs Lelièvre et Blaise Merlin pour cette belle proposition qui nous évade aussi, qui révèle effectivement d'autres choses.
Alors ce qui est important, c'est que l'installation est pleine d'énigmes et pleine de mystères. Moi, ce qui me touche, c'est quand on a du mal à mettre des mots ou alors que quand ça génère beaucoup de mots. Et de fait, on parle des grottes, mais en réalité, ce qui se joue dans l'installation, c'est quelque chose de beaucoup plus transversal, qui peut raviver de multiples expériences de paysage. Et de fait, j'insiste sur le fait que les visiteurs n'ont accès au texte qu'à la fin de l'exposition, pour se laisser aussi perturber dans son propre langage ou agiter, animer, mis en mouvement. Et on sera particulièrement sensible aux mots qui nous sont transmis aussi et qui peuvent alimenter notre propre perception de l'œuvre.
une exposition qui va tendre encore à évoluer au fil des paysages aussi, puisque c'est la troisième étape là.
Absolument, c'est la troisième mise en situation et évolution, réadaptation de cette installation, et j'espère qu'il y aura encore d'autres suites et donc d'autres adaptations qui m'amèneront à la redécouvrir autrement. Moi, j'aime être surprise, et c'est la rencontre avec des nouveaux lieux, des nouveaux contextes qui met aussi en mouvement mes propres œuvres modulaires. C'est-à-dire elles sont architecturées, et en même temps le fait qu'elles sont composées de parties fait que c'est comme un terrain de jeu. Moi aussi je suis comme une enfant, et donc quand je les réagence, en fait tout peut se jouer différemment à chaque fois, et je ne planifie pas. Donc je découvre, comme les Lego, les Kaplas, des nouvelles possibilités en jouant avec. Et je dis ça parce que les grottes sont très liées aussi à l'enfance, dans les découvertes qu'on s'en fait. Bon, il y a une sorte de mythologie quasiment, on associe les grottes à ces enfants qui eux seuls peuvent les découvrir en quelque sorte.
Beaucoup de spontanéité aussi
donc
dans tout ça.
J'espère que l'on peut rentrer un petit peu enfant dans cette installation.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.